Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. L'ancienne basilique Sainte-Sophie à Istanbul a été rendue au culte musulman. La décision était attendue depuis des années par les milieux religieux et nationalistes turcs. Elle intervient dans un contexte de fortes tensions autour de l'exploitation par la Turquie des ressources en hydrocarbures de la Méditerranée orientale, la gestion de la question migratoire, les actions d'Ankara en Libye, ou encore les attaques de la Turquie dans le nord de l'Irak et le nord de la Syrie, en particulier dans les régions habitées par les Kurdes. Sans parler sur le plan intérieur turc de l'accentuation de la répression sur fond d'arrestation visant des maires kurdes élus et des milliers de membres du HDP. Regard sur la question kurde avec cette interrogation, ce début de décennie est-il un possible tournant pour les Kurdes? Réussiront-ils à s'unir ou resteront-ils divisés? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Olivier Piau, journaliste et grand reporter, spécialiste des Kurdes du Moyen-Orient, auteur de 3 ouvrages sur la question, dont un dernier essai, Kurdes, les damnés de la guerre, publié aux éditions Les Petits Matins, et fondateur de la plateforme franco-africaine Médias et Démocratie. Bonjour.
Bonjour.
Adel Bakawan, directeur du département recherche de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, directeur du centre de sociologie de l'Irak à l'université de Soran, chercheur associé à l'IFRI, chargé de cours à l'université d'Evry et auteur de L'impossible État irakien, les Kurdes à la recherche d'un État aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean Marcou, professeur et titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Bonjour Jean.
Bonjour.
Le gouvernement turc ne cesse de s'acharner depuis 2015 sur le Parti démocratique des peuples, deuxième formation d'opposition de Turquie, le HDP, en raison de ses liens supposés avec la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Lors des municipales de 2019, le HDP avait remporté 65 municipalités dans l'est et le sud-est de la Turquie. Depuis, 45 maires de ce parti ont été révoqués et remplacés par des administrateurs nommés par le gouvernement turc. 21 sont en prison sous l'accusation de terrorisme. Jean-Marcou, en quoi ces municipalités sont-elles une menace pour Erdogan ?
Je crois qu'il faut se souvenir très clairement que finalement ce parti kurde, qui est d'ailleurs toujours légal en Turquie, dans un jeu politique et un jeu électoral qui est un jeu assez hybride, puisque à la fois on a véritablement un tournant autoritaire qui s'était même amorcé avant la tentative de coup d'État de 2016, et puis depuis 2016, et cette tentative dont le régime vient de fêter l'échec de manière impressionnante ces derniers jours. Encore une fois, le régime s'est considérablement durci, mais il reste un régime hybride où on fait survivre une certaine pluralité, hein, puisqu'il y a des partis d'opposition au Parlement, et puisqu'il y a ce parti qui, non seulement d'ailleurs, est présent au Parlement, c'est encore le troisième parti au Parlement, mais qu'en plus, il est très présent dans les municipalités. Il faut se souvenir qu'en 2015, l'AKP a subi son premier revers en perdant sa majorité absolue, et cela c'était très largement à cause de l'élargissement de l'influence électorale du HDP. Par ailleurs, quand on regarde bien les résultats de 2019, on s'aperçoit qu'à Istanbul en particulier, où il y a une communauté kurde importante, c'est aussi d'une certaine manière, peut-être pas simplement à cause du HDP, mais en partie à cause des consignes de vote du HDP, que le candidat d'opposition Ekrem İmamoğlu a gagné finalement les élections, infligeant là aussi un nouveau revers, peut-être le deuxième revers important à l'AKP, qui est très préoccupant parce que effectivement Istanbul est un peu la vitrine de l'AKP depuis toujours. Et donc finalement ce parti a quand même toujours été au cours des dernières années, en particulier depuis 2015, une force d'influence qui est effectivement significative et qui est un petit peu la bête noire sur le plan intérieur de Recep Tayyip Erdogan. Je n'en veux pour preuve que les dernières déclaration de Recep Tayyip Erdogan, qui à l'occasion des festivités d'échec du coup d'État de 2016 appeler finalement les députés, y compris les députés d'opposition, à un rassemblement patriotique. Et ça rappelait un peu ce qui s'était passé après le coup d'État, où Recep Tayyip Erdogan avait rassemblé les partis d'opposition, à l'exception du HDP. Et là encore, on sentait bien que cet appel aux patriotes incluait d'une certaine manière une exclusion du HDP.
Alors, exclusion du HDP, Jean-Marc Roux l'évoquait, Olivier Piau, donc revers de l'AKP et durcissement contre le HDP. La question qui se pose, c'est que l'on sait des liens réels entre le HDP et le PKK. Deux questions par rapport à tout cela. Ces maires du HDP révoqués, certains mis en prison, remplacés par des tuteurs de l'État. Comment ces tuteurs sont-ils acceptés par les populations? Et finalement, la question kurde en Turquie. On peut rappeler que les Kurdes, ce sont 20 millions de personnes, soit un quart de la population turque. La question kurde en Turquie, plus que jamais dans l'impasse. Olivier Piau.
Oui, je crois que le tournant depuis... Il est depuis 2015, l'interruption des négociations qui avait été ouverte par Erdogan avec y compris les dirigeants du PKK, une feuille de route en 2013 et une interruption subite due au risque estimé par Erdogan sur le front syrien, des Kurdes syriens. À partir de là, de l'été 2015 et du coup d'État de 2016, il y a une répression très très forte, une occupation militaire qui est vieille mais qui s'est encore renforcée, des violences urbaines de part et d'autre et surtout de la part du régime d'Ankara, donc l'étau se resserre sur ces sentinelles de la démocratie finalement que sont ces élus de districts, de villes, on pourrait parler des députés aussi, puisque sur les 59 députés élus aux élections législatives de 2015, je crois qu'il y en a 7 qui ont été destitués de leur mandat, dont un des dirigeants du HDP, Monsieur Demirtas. Donc on a bien, du côté d'Erdogan, la volonté de museler, d'étouffer, de réprimer ce mouvement démocratique du Kurdistan de Turquie, puisque le HDP est un parti légal qui participe aux élections. Donc il y a un déni de démocratie, clairement. Et en même temps, il y a quelques semaines, le HDP a lancé ses grandes marches de la paix et de la démocratie, puisqu'ils ont décidé de montrer à l'ensemble de la société turque que le HDP est au cœur d'une alternative possible en Turquie avec des alliances. Quand Monsieur Erdogan s'allie à l'extrême droite depuis quelques années maintenant, le HDP, les dirigeants kurdes, ouvrent la possibilité aux organisations kémalistes centristes ou de gauche turques qui sont importantes, de créer des fronts, comme ce front qui a été créé à Istanbul lors des élections municipales et qui a permis la défaite de l'AKP. Donc voilà, on a une perspective plus que jamais d'alternative démocratique dans cette société turque qui devient de plus en plus autoritaire et où les Kurdes peuvent jouer un rôle important.
Parce qu'effectivement, Adel Bakawan, je me tourne vers vous, on terminera avec la question intérieure en Turquie à propos des Kurdes. Cette volonté de rallier les mouvements démocratiques de Turquie de la part du HDP, c'est peut-être cela l'issue possible pour ce parti et la question kurde en Turquie.
Oui, absolument. Je confirme ce qui vient d'être dit par Olivier et Jean. Bien évidemment, si on analyse la question kurde en Turquie sous le prisme du PKK, je confirme qu'on est dans l'impasse depuis 30 ans. Cette conflictualité entre Ankara et le PKK est vraiment dans l'impasse totale. Mais par contre, au Kurdistan de Turquie, il n'y a pas que le PKK. Il y a d'autres forces politiques, il y a d'autres organisations. On vient parler de HDP. Il est vrai qu'il y a un lien émotionnel, je dis bien émotionnel, entre le PKK et le HDP. Mais ce lien n'a jamais été organique, ce lien n'a jamais été idéologique, n'a jamais été politique, et cela est une évidence pour les observateurs, mais aussi pour le pouvoir turc, d'où l'acceptation, je reviens sur ce qu'il a dit Jean, ce système hybride turc qui accepte encore la présence de HDP autant que force politique. Alors donc oui, je pense en Turquie, à ce niveau-là, nous non seulement nous sommes pas dans l'impasse, au contraire, on est vraiment pas très très loin de trouver des solutions de sortie.
Jean-Marc Roux, un commentaire pour clore ce volet turc avec le HDP et le PKK et peut-être revenir sur cette question à laquelle on n'a pas tout à fait répondu, c'est les liens entre le HDP et le PKK.
Oui, les liens entre le HDP et le PKK, comme le disait Adèle, il n'y a pas de lien organique visible. Il y a, je dirais effectivement, un lien qui peut être émotionnel, mais il y a aussi finalement le parcours des militants et le parcours des membres du HDP. Il y a des gens qui sont loin du PKK, d'autres qui sont beaucoup plus proches, parce que il faut bien voir qu'il y a des liens également familiaux, des liens de tribu, qui font que effectivement on peut avoir des gens qui sont engagés dans les deux organisations, enfin des familles qui sont engagées dans les deux organisations. Et donc, comme toujours, bien évidemment, il est extrêmement dur de faire véritablement la part de ces liens, mais l'un des chevaux de bataille, bien sûr, du parti au pouvoir, c'est que, d'une certaine manière, le HDP est la vitrine légale du PKK. Il le rappelait encore il y a quelques jours, et cette approche du HDP n'est pas uniquement celle du parti au pouvoir. Quand on regarde par exemple le nouveau parti nationaliste, le Yi Parti, le Bon Parti, il y a quelques semaines, il y a eu une polémique en Turquie parce que ce parti a voulu se démarquer justement du PKK, notamment à propos des élections municipales. L'un des responsables du HDP avait expliqué que le HDP, le parti kurde, avait donc soutenu les listes d'opposition, c'est-à-dire incluant des nationalistes d'opposition, et ces nationalistes d'opposition ont mis un point d'honneur à se démarquer du HDP en expliquant que c'était un parti qui était lié au PKK. Donc cette accusation est toujours sous-jacente et elle ne sera jamais véritablement clairement élucidée par la force des choses du fait de l'imbrication à la fois de la situation et des parcours personnels.
Alors, on va sortir du contexte purement turc pour aborder la question kurde sur un plan régional. On a vu les Kurdes, à partir de 2012, être aux avant-postes de la lutte contre les combattants de Daesh, à la fois en Syrie et en Irak. Ils ont eu ces dernières années un poids certain dans le chaos de la guerre et sont parvenus à ouvrir au nord de l'Irak et dans le Rojava syrien des perspectives politiques favorables à la reconstruction d'une région meurtrie par des clivages nationaux, ethniques et confessionnels. Depuis octobre 2019, il y a cette opération turque dans le nord de la Syrie, et depuis quelques semaines, l'opération turque dans le nord de l'Irak, cette fois. Quelle est la situation aujourd'hui dans l'un et l'autre des deux pays, Olivier Piot ? Peut-être sur la Syrie pour commencer.
Alors la Syrie, je dirais que la situation, elle est un petit peu en suspension, si j'ose dire. C'est un peu comme une parenthèse, c'est-à-dire que depuis l'accord de Sotchi, donc à l'automne 2019, toute la zone des trois cantons du Rojava est occupée par une coalition de militaires turcs, de supplétifs pro-Erdogan islamistes radicalisés, les troupes en partie de Bachar al-Assad qui ont réinvesti certaines villes et villages, et évidemment les troupes russes qui sont en soutien du régime de Damas. Mais je dirais que les FDS, donc les forces démocratiques syriennes, et les unités combattantes kurdes de Syrie, les YPG, sont toujours sur place, notamment à Kobané, qui est la ville qui avait fait tant parler d'elle dans la lutte contre Daesh en 2014, quand les Kurdes avaient fait perdre les combattants de Daesh, sont toujours là. Il y a toujours les comités de village, tout ce qui a été structuré dans ce Rojava par les FDS, et puis ce front à la fois arabe, chrétien et à majorité kurde. Toutes ces institutions demeurent, il y a une sorte de double ou de triple pouvoir, double pouvoir politique avec Damas et puis triple voire quadruple position militaire. On est en suspension. Où on va ? Soit on va vers l'écrasement total, le désarmement des forces kurdes et l'effondrement finalement de cette perspective de fédération du nord de Syrie. C'est un scénario possible. L'autre scénario possible, c'est que les Kurdes sont sur place, sont toujours armés, ont toujours leurs institutions, entre guillemets, dans ces trois cantons. Et ils viennent là depuis un mois vous savez qu'il y a eu un accord entre le Conseil national kurde et l'unité nationale kurde, c'est-à-dire, grosso modo, l'ensemble des partis kurdes syriens pour faire front. Les négociations se poursuivent. Il y a eu un premier acte d'accord il y a un mois. Et c'est important parce que ça veut dire que les Kurdes sont en train politiquement en Syrie de chercher à mettre en place un front unique de discussion avec Bachar al-Assad et donc derrière Poutine, parce qu'il y a quand même le problème du maintien des troupes turques, un pays étranger, sur le territoire syrien, donc ça peut pas durer quand même éternellement. Voilà, donc il y a des négociations qui sont en cours entre Damas et les Kurdes, et une des possibilités, à côté de celle dramatique pour les Kurdes de l'effondrement du Rojava, c'est d'obtenir des concessions, tout ou partie d'autonomie locale, communale, tout reste ouvert, dans ce schéma de reconstruction de la Syrie où la Turquie n'est plus censée demain rester. Mais bon.
Et ça dépendra d'un contexte international sur lequel on reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Je pense en particulier aux élections américaines de novembre prochain, bien évidemment. Adel Bakawan, sur le Kurdistan en Irak, je l'évoquais depuis quelques semaines, intervention turque dans la région. Si les Turcs sont entrés en Syrie presque avec un terrain que leur a laissé les Américains, l'intervention turque en Irak se fait selon les mêmes facilités d'engagement. Qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Géopolitiquement parlant, pour la Turquie, il y a deux Kurdistan. Il y a le Kurdistan du PKK en Syrie et il y a le Kurdistan du GRK, le gouvernement régional du Kurdistan en Irak. Le Kurdistan du GRK est accepté comme un partenaire stratégique, sécuritaire, politique, économique, par la Turquie, mais aussi par la République islamique de l'Iran et globalement par les pays du système régional. Le Kurdistan du PKK en Syrie est considéré géopolitiquement comme un ennemi à abattre. Mais dans le système géopolitique, il n'y a pas des règles éternelles. Tout est négociable. On est dans l'interaction et non pas dans le structuralisme. Et parce qu'on est dans les interactions sur le front syrien, le Kurdistan du PKK, le Kurdistan syrien, il y a un mouvement. Dans ce mouvement, il y a l'engagement des États-Unis d'Amérique et surtout la France, mais aussi avec la coopération de la Turquie. Récemment, les Américains ont donné une liste de 3000 personnes à l'autorité kurde en Syrie, c'est-à-dire le Kurdistan syrien. Ces 3000 personnes sont des cadres dirigeants du PKK qui se trouvent dans les coulisses en Syrie et qui gèrent cette expérience. Voilà une des conditions de la coalition internationale pour coopérer avec cette expérience kurde en Syrie, avec bien évidemment l'accord implicite, je dis bien implicite, de la Turquie, c'est que cette autorité kurde expulse ces 3000 cadres dirigeants du... Au Kurdistan irakien...
Ils sont menacés d'expulsion.
C'est ça, absolument. Avec, bien évidemment, l'engagement du général Mazloum, hein, qui est considéré comme un acteur opérationnel sur le terrain syrien et très proche de la coalition internationale contre le terrorisme et notamment des États-Unis d'Amérique et de la France. Voilà, et il y a des négociations en cours. Et donc, si ça bouge, la Turquie aussi est amenée à reconfigurer sa politique du Kurdistan syrien. En Irak, c'est complètement différent. Vous avez un gouvernement régional du Kurdistan qui a signé un contrat de partenariat de 50 ans en 2014 avec Ankara. Cet accord signé est constitué de 35 articles. Un des articles de cet accord, c'est la coopération sécuritaire et militaire des deux côtés de la frontière. Grâce à cet accord, l'offensive turque au Kurdistan irakien se fait avec la complicité, voire la coopération dans les coulisses directes des services du GRK. La Turquie ne pourra jamais installer 32 bases militaires dans le Kurdistan irakien, même jusqu'à Erbil, sans cette coopération du GRK. Le GRK et la Turquie ont un ennemi en commun. Et cet ennemi, il s'appelle le PKK, et je m'arrête là. Depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais reconnu le gouvernement régional du Kurdistan en tant qu'entité juridique représentant la question kurde. Du coup, l'affaiblissement, voire la disparition du PKK au Kurdistan irakien est un intérêt partagé entre l'Ankara et Erbil.
Alors, on vous retrouve, Adel Bakawan, avec Olivier Piau et Jean-Marc Coux, après le journal. À tout de suite.
Anticipé. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la question kurde. Nous retrouvons nos invités Olivier Piau, journaliste et grand reporter spécialiste des Kurdes du Moyen-Orient, auteur de 3 ouvrages sur la question, dont un dernier essai, Kurdes, les damnés de la guerre, publié aux éditions Les Petits Matins, et fondateur de la plateforme franco-africaine Médias et Démocratie. Adel Bakawan, directeur du département recherche de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient, directeur du centre de sociologie de l'Irak à l'université de Soran, chercheur associé à l'IFRI, chargé de cours à l'université d'Evry et auteur de L'impossible État irakien des Kurdes à la recherche d'un État aux éditions L'Armaton, et Jean Marcoux, professeur et titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Nous avons terminé la première partie de l'émission en évoquant ces interventions de la Turquie dans le nord de la Syrie depuis l'automne 2019 et dans le nord de l'Irak de façon plus récente, mais c'est récurrent tous les ans à la fonte des neiges à peu près à la même époque, et cette année peut-être des aspects un peu particuliers, donc intervention de la Turquie dans le nord de l'Irak. Vous l'évoquiez, Adel Bakawan, en disant que probablement cette intervention turque s'était faite sous l'autorisation tacite du gouvernement régional du Kurdistan.
Avec le rejet de Bagdad.
Avec le rejet de Bagdad, on va y venir. Et surtout, parce qu'il s'agit là d'attaquer des positions du PKK, je parle sous votre contrôle à chacun, dans le nord de l'Irak. Et vous avez terminé la première partie de l'émission en disant que l'ennemi aujourd'hui, pour les Kurdes du Kurdistan irakien, c'était le PKK. Alors, des divisions que l'on a du mal à percevoir depuis la France. Quelques mots pour nous éclairer, Adel Bakawan.
Juste quelques mots. Si vous considérez le mouvement national kurde comme une entité homogène sur un territoire uni, oui, c'est des divisions. En revanche, si vous considérez le nationalisme kurde propre à chaque État, c'est-à-dire le nationalisme du GRK, le nationalisme du PKK, le nationalisme des PAGA, etc. Ça, c'est une autre grille d'analyse. Moi, je ne pars pas de cette perspective qui considère le mouvement national kurde comme une entité homogène. Donc, il n'y a pas de division. Deuxièmement, s'il y a des divisions, ils se trouvent à l'intérieur de chaque Kurdistan.
Pas de division parce que chacun défend ses propres intérêts.
Voilà, c'est absolument. Pour le nationalisme du GRK, le Diyarbakir ne fait pas partie de son Kurdistan. Pour le nationalisme du GRK, la lutte n'est pas pour réintégrer, par exemple, Mahabad ou Qamishli comme des territoires détachés du Kurdistan, mais c'est plutôt Mossoul et Sanjar. Alors, dans cette perspective-là, oui, le nationalisme du GRK, notamment du PDK, le Parti démocratique du Kurdistan du Barzani, considère le PKK comme un ennemi qui ne reconnaît pas son autorité, son cadre juridique. Et donc, cet ennemi est partagé entre Ankara et Erbil, numéro 1. Numéro 2, il faut dire, entre Erbil et Ankara, il y a des échanges économiques qui se lèvent à peu près de 13 milliards de dollars par an. Et c'est là presque la seule porte de l'économie du GRK qui passe par la Turquie.
Surtout qu'avec la chute du cours du pétrole,
exactement,
bien évidemment.
Et donc, le GRK, en tant qu'acteur étatique, s'il vous existait dans ce système régional, il n'a pas le choix que coopérer avec les pays du système régional.
Jean Marcoux.
Oui, je pense que ce que dit Adel Bakawan est un élément fondamental de la compréhension justement du problème kurde. Parce que effectivement, on a aussi derrière, je dirais, ces différences d'intérêts, c'est-à-dire différences d'intérêts des partis qui sont en présence en Irak, en Turquie, en Syrie, on a aussi des différences qui sont tribal, linguistique, tous les Kurdes ne parlent pas la même langue, justement, ils ont une histoire différente, et rien que par exemple entre les Kurdes irakiens et les Kurdes de Turquie, on a deux langues différentes, on a des familles différentes, donc tout ça fait une diversité. Et c'est vrai que d'Europe, on a toujours tendance à aborder le problème kurde sous l'angle d'un futur État kurde qui unifierait tous les Kurdes. C'est vrai que la culture kurde existe, elle se manifeste au travers d'une histoire qui est effectivement millénaire, elle se manifeste au travers d'un certain nombre de caractéristiques culturelles, mais cette identité kurde, elle est effectivement pluriel, et cela se traduit effectivement par des différences d'intérêts, par des tensions politiques. D'ailleurs, tensions politiques qu'on peut observer non seulement entre les Kurdes de Turquie et les Kurdes d'Irak, par exemple, hein, une différence d'approche politique, mais également différences qu'on peut observer à l'intérieur même, par exemple, de l'Irak, l'opposition traditionnelle entre le PDK et l'UPK, et ce n'est pas la seule. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on a un petit peu l'impression qu'on a d'un côté le PDK qui a une approche un petit peu étatique de la question kurde à l'intérieur même de l'Irak du Nord, donc finalement c'est un petit peu le Kurdistan dans un seul État qui serait un État en Irak du Nord, et puis on a le PKK et ses organisations frères, hein, puisqu'il y a le PKK en Turquie, le PYD en Syrie, le BJAK en Iran, et cette organisation, elle est différente des autres parce qu'elle a une vision transnationale, elle, de la question kurde. Donc, je crois que cette géopolitique kurde est très importante pour comprendre les enjeux politiques qui sont présents, et également les enjeux géopolitiques, c'est-à-dire les alliances ensuite que ces mouvements nouent avec les différents États, Turquie en particulier, Irak, Syrie, etc., pour comprendre véritablement ensuite des phénomènes de conflits internes qui peuvent nous paraître extrêmement compliqués et extrêmement incompréhensibles de l'extérieur.
Alors précisément, puisque Jean-Marc Roux évoquait ses alliances avec différents États, Olivier Piau, on aurait pu penser que les attaques turques contre les Kurdes pourraient contribuer à faire s'unir les différents mouvements.
Oui, et je suis d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici. Diversité des Kurdes, diversité des cultures des États, à cause du morcellement après la Première Guerre mondiale. Le Kurdistan, historiquement, c'est un seul territoire unifié. Et depuis, c'est quatre États, quatre communautés qui vivent avec des nationalismes, un double nationalisme finalement, imposé turc, perse et arabe, et puis vécu idéologiquement, qui est cette identité kurde. C'est le grand paradoxe, c'est que en fait on a deux pôles qui vivent depuis dans cette résistance kurde que je rappelle dans mon livre. Il y a un pôle qui consiste à dire il faut s'unir au-delà de ce morcellement, de cette division qu'on a subie par les quatre États qu'on nous a imposés. Et tant qu'on ne s'unit pas et qu'on ne fait pas un front commun, on perdra chacun séparément. Et c'est bien ce qui s'est passé, à l'exception de l'Irak, où là il y a eu une victoire, grâce aux alliés d'ailleurs, grâce aux Américains, disons les choses.
Avec la création donc de ce Kurdistan irakien.
Et donc par rapport à cette question d'unité possible pan-kurde, qui renforce la cause kurde, où qu'elle soit. On a un groupe politique quasi étatisé au nord de l'Irak qui résonne en patrimoine. Donc, en gros, lui, il dit, moi, j'ai mon autonomie, j'ai ma structure étatique, je rêve plus que d'un truc, c'est la perte du référendum, mais enfin, ça reste le rêve, un État, mais un État kurde au nord de l'Irak. Et puis, on a d'autres groupes politiques, dont le PKK, qui sont encore dans la résistance, qui n'ont rien gagné. Et qui, eux, ont tout intérêt, au contraire, à réactiver la perspective pan-kurde d'unité des forces au-delà des frontières. Donc, même si ça prend une traduction idéologique entre les deux, on a en réalité, d'un côté, une gestion patrimoniale qui veut faire avec les États régionaux et internationaux, qui est prêt à négocier quasiment tout, y compris s'il doit lâcher ses petits camarades de Syrie ou de Turquie, y compris de réclamer qu'on chasse les militants du PKK parce que ça l'arrange de présenter le Kurdistan syrien comme n'étant que aux mains du PKK. Ce qui est en partie vrai, mais qui n'est pas totalement vrai. Il y a les Kurdes syriens. Donc vous voyez que d'un côté, on a un acteur, le GRK, qui tente de négocier sa place, quelles que soient quasiment les conditions, y compris pour faire du business avec la Turquie. Donc les attaques turques dont vous parliez au début, ça le gêne absolument pas, voire même il va les aider. Et de l'autre côté, on a un pôle de résistance syrien, Turquie, où rien n'est réglé sur la question kurde, et qui a intérêt à élargir au maximum les alliances et l'unité pan-kurde, parce que grosso modo, si on reste en Turquie et en Syrie, chaque front va perdre séparément. Donc il a intérêt à l'unité. Et d'ailleurs, Öcalan, au téléphone avec son frère, c'est la première fois qu'il pouvait parler il y a un mois de la prison turque où il appelle en ce moment à l'unité et il dénonce les alliances suicidaires du point de vue du mouvement kurde. Donc ça veut dire que la question n'est pas, les Kurdes ne sont pas unifiés, donc il n'y a pas de solution pan-kurde possible. C'est pas ça la question. Il y a une solution pan-kurde possible si on choisit l'unité et si on choisit de se dire qu'on regarde un siècle de lutte. Si on n'est pas unis, chaque front kurde va perdre séparément. Et c'est ce qui est en train de se passer, y compris en Irak.
Alors, Öcalan qui appelle, on peut rappeler qu'il est le leader du PKK. Adel Bakawan, qu'est-ce que l'on peut dire rapidement pour bien comprendre du rapport de force finalement entre le GRK et le PKK? Et aujourd'hui, la position du PKK, de ce que je comprends, de ce que vient de dire Olivier Piot, elle a considérablement évolué.
Bah, écoutez, oui, évolué idéologiquement et évolué géopolitiquement. Idéologiquement, le PKK n'appartient plus au nationalisme kurde. Il le revendique plus, hein. Il revendique plutôt la Confédération démocratique des peuples du Moyen-Orient. Le PKK n'a plus un discours sur le peuple kurde, sur un État kurde. Le PKK, il vous parle de la kurdicité déterritorialisée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous pouvez être kurde à Istanbul comme à Paris. Vous n'avez absolument pas besoin d'un territoire pour construire un État kurde.
Ça devrait rassurer régionalement cette position nouvelle.
Oui, absolument, absolument, absolument. Seulement, ce qui gêne le système régional, c'est l'action révolutionnaire du PKK. Par exemple, modèle de société proposé au Kurdistan syrien et à 180 degrés à l'opposé de toutes les structures politiques, sociales, traditionnelles du pays. Regardez par exemple la question du genre, l'égalité entre femmes et hommes, les rapports sociaux, l'éducation, etc. C'est un mouvement révolutionnaire et non pas un mouvement social qui essaye d'être pragmatique. Et je vous donne un exemple. Dans des grandes cérémonies, vous avez une des grandes puissances du Moyen-Orient, c'est la Turquie. Alors cette grande puissance moyen-orientale a déclaré une guerre contre Abdullah Öcalan. Vous faites des grandes cérémonies et vous mettez des grands portraits d'Abdullah Öcalan pour provoquer cette grande puissance qui est dirigée actuellement par un islamo-nationaliste qui cherche... C'est pour dire ces acteurs qui dirigent l'expérience révolutionnaire en Syrie sont pas des acteurs étatique avec un paradigme pragmatique pour construire du lien et s'intégrer dans le système régional. C'est pourquoi la perspective de cette expérience est vraiment incertaine. Mais par contre, ce que je voulais dire, si vous me permettez, avec une seule remarque et d'une manière très très rapide, de 2005 à 2017, j'avais écrit un ensemble d'articles scientifiques de recherche sur la division kurde. Par exemple, les fragilité kurde, le mythe de l'indépendance, en mettant l'accent sur toutes les données qui nous amènent sur la division kurde comme la première responsable de l'absence d'un État kurde unifié. À partir de 2017, l'échec du référendum de l'indépendance du Kurdistan, j'ai repris cette grille d'analyse en mettant un autre élément qui peut-être relancera le débat sur la troisième ou la dernière partie de notre émission, c'est la question internationale. Hein. C'est l'élément international, la dimension internationale de la question kurde. Pour moi, désormais, s'il n'y a pas eu un État au Kurdistan irakien, c'est pas parce que les Kurdes étaient divisés. C'est pas parce qu'il n'y avait pas des structures économiques très très solides. Ce n'est pas parce que les Kurdes ne disposaient pas une armée solide et professionnelle. Non, absolument pas. C'est tout simplement parce que le système international n'est pas encore prêt pour adopter un État kurde. C'est pourquoi on mettait toujours l'accent d'un GRK, d'un gouvernement régional fort à l'intérieur d'un Irak uni.
Alors, l'international n'est pas prêt pour un État kurde. Jean-Marc Roux, il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission et bien comprendre peut-être précisément cette dimension internationale aujourd'hui. On a posé la question un petit peu plus tôt dans l'émission de savoir si la Turquie resterait dans le nord de la Syrie, dans le Rojava. Il est évident que la question de l'élection américaine de novembre prochain peut faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Jean-Marc Roux.
Oui, enfin, il faut être prudent également au niveau des positions internationales, parce que même si les positions de Donald Trump sont parfois exprimées avec un certain extrémisme, elles rejoignent aussi souvent des postures américaines de désengagement qu'on a observées au cours des dernières années. Donc, il est vrai que la position de président Obama était autre, mais il faut faire quand même attention à tout ça. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu l'élection américaine, mais aussi plus généralement des équilibres internationaux, que le problème kurde a une dimension internationale, spécifiquement en Syrie, parce que effectivement, la Turquie, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, en octobre, a obtenu une partie de ce qu'elle voulait, c'est-à-dire la possibilité de mener une opération militaire sur la rive est de l'Euphrate et de prendre des positions dans le Rojava sur la rive est de l'Euphrate, mais elle n'a pas non plus, la Turquie, obtenu tout ce qu'elle voulait, c'est-à-dire véritablement la disparition du Rojava. Et comme le disait Olivier Piau, effectivement, le PYD, les YPG sont toujours bien présents dans cette zone avec leur force politique et militaire. Donc le problème, d'une certaine manière, reste entier de ce point de vue-là. Bon, va beaucoup dépendre justement du règlement final du conflit syrien, parce que je crois que c'est ce qui se joue aussi. La Turquie veut peser sur le règlement final de ce conflit syrien auprès des Russes. Les Russes, on le voit bien dans d'autres zones, et en particulier à Idlib, ont aussi leurs intérêts. Le régime de Bagdad est là. Et donc, le sort des Kurdes va beaucoup dépendre finalement de ce règlement final. Mais il faut rappeler que malgré l'intervention qui a été faite par la Turquie l'année dernière, le Rojava et ses institutions, le Rojava et ses forces sont quand même toujours présentes. Donc le problème, d'une certaine manière, reste entier et l'évolution de la situation internationale va être très importante pour le règlement du sort des Kurdes syriens.
Olivier Piau.
Oui, je crois que le front, on dit de la question internationale, c'est-à-dire en fait de tous ces acteurs qui, d'une façon régionale, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak, la Turquie, l'Iran, et international, donc on parle de l'Europe, France, États-Unis, Russie, ça fait très longtemps que tous ces acteurs, peut-être en dehors des acteurs strictement régionaux dans la dernière période, sont pour un statu quo, des États existants. Et donc les Kurdes, on les écoute, éventuellement on les reçoit, rarement les premiers autour d'une table, mais si on n'a pas besoin d'eux, on répond pas à leurs revendications. Donc tout le combat des Kurdes a été de montrer qu'on avait besoin d'eux, mais on a besoin d'eux pourquoi ? Pour créer un État kurde? Non, on a besoin d'eux parce que cette région est fragilisée depuis des années. Là, c'est Daesh, avant c'était autre chose. Et qu'on se demande si les Kurdes sont pas une éventuelle solution pour reconstruire et restabiliser. Jusqu'ici, tous les acteurs ont estimé que les Kurdes étaient suffisamment importants en nombre pour qu'on les écoute, mais jamais suffisamment importants pour qu'on fasse avec eux. On les utilise, on les trahit, et ça c'est vrai de tout le monde. Qu'est-ce qui peut faire qu'à l'avenir, un des acteurs se disent, bah tiens, cette fois j'ai besoin. Ils ont eu besoin au nord de l'Irak, au moment de Saddam Hussein. C'est pour ça qu'on leur a cédé, c'est pas parce que moralement, on s'est dit les pauvres, ils vivent dans une situation catastrophique. Donc à quel moment les Kurdes à l'avenir peuvent apparaître comme une carte possible pour stabiliser la région? C'est ça la question. Est-ce que ce sera demain dans le choix de Poutine en Syrie de dire « il faut que je pousse Bachar al-Assad à céder des choses à la Syrie parce que ça permet de décoller le front syrien du front turc » Est-ce qu'on va laisser Erdogan continuer à faire sa mégalomanie? Voilà, la question se posera comme ça.
Adel Bakawan, s'il fallait conclure extrêmement rapidement.
Le moment kurde n'est pas derrière nous, mais devant nous.
Merci Adel Bakawan. Je rappelle que vous êtes directeur du département recherche de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient, directeur du centre de sociologie de l'Irak à l'université de Soran, chercheur associé à l'IFRI, chargé de cours à l'université d'Evry et auteur de L'impossible État irakien, les Kurdes à la recherche d'un État chez l'Armatan, et que vous avez co-dirigé avec Jean Marcoux, un numéro spécial à paraître dans la revue Orient Stratégique sur la question kurde, à paraître donc en septembre. Et Jean Marcoux, je rappelle que vous êtes professeur et titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Olivier Piau, journaliste et grand reporter spécialiste des Kurdes du Moyen-Orient, auteur de 3 ouvrages sur la question dont un dernier essai, Kurdes les damnés de la guerre, publié aux éditions Les Petits Matins, et Olivier Piau, qui est fondateur de la plateforme franco-africaine Médias et Démocratie. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte à samedi.